Ibrahim Malouf, accompagné de Mélodie Gardeau, nous chantait « J'attendrai ».
Actualité culturelle, je vais lire la chronique d'Hugo Dumas, surprenant Normand. Heureusement qu'il existe des Normands Brathwaite pour nous réconcilier avec le showbiz québécois, un milieu propice à l'hypocrisie et au poignard enfoncé dans le dos. À Conversation secrète de Paul Arcand dimanche soir, Normand Brathwaite a accordé une entrevue sans filtre, touchante et même croustillante. J'aime bien cet artiste qui n'esquive aucun sujet dit interdit. Brathwaite est un des rares à parler de son salaire, ultime tabou dans la colonie artistique québécoise. Dans ses belles années, il empochait plus de 1 million par année. Jamais il n'a craché sur la pub qui lui a permis de s'acheter un magnifique appartement rue Chérié. Bien sûr, Normand Brathwaite, 59 ans, s'est beaucoup et souvent confié, notamment à ma collègue Isabelle Massé qui a rédigé sa biographie en 2012. Mais de repasser autant d'éléments marquants de sa vie, tout ça en 45 minutes, était super intéressant. Cet épisode de conversation secrète à TVA qui n'annonçait rien d'exclusif a été agréablement surprenant. Dans sa période dépressive, l'animateur et comédien s'étendait et pleurait devant le Westmount Square, un endroit où personne ne le reconnaissait. À trois reprises, il s'est rendu sur le pont Victoria dans le but de se suicider. La peur de souffrir physiquement lui a fait rebrousser chemin les trois fois. Normand Brathwaite a également révélé que sa fille Elisabeth Blouin-Brathwaite a fréquenté un criminel et que son fils Édouard a failli aboutir en prison après avoir participé à une extorsion pour se payer un tatouage. Dans le trajet en voiture avec Paul Arcand, Normand Brathwaite a évoqué la pédophilie connue de certains membres de l'industrie artistique québécoise. Il y a des gens dans le show business qui aiment ça, des photos de petits gars tout nus. Ça se sait, a lancé Brathwaite. Invité par Arcand à préciser cette déclaration, l'ancien timonier de C'est quoi a rappelé qu'il ne s'agissait que de rumeurs. Ce bout-là de l'interview aurait mérité d'être creusé davantage. C'est une affirmation grave qui est restée flottante. Maintenant installé à la campagne sur un terrain de 52 acres, Brathwaite a longtemps fréquenté les bars de la rue Prince-Arthur, coin Saint-Laurent. Oui, il a reniflé de la cocaïne de façon récréative les samedis soirs. Il affirme ne pas avoir eu de difficulté à arrêter. Et savez-vous ce que signifie l'expression « faire une octave » dans l'univers des musiciens poudrés? C'est aspirer une ligne de coke qui s'étire entre deux notes do d'un piano. À propos de la comédie « Grosse vie » de Radio-Canada, Brathwaite ne se défile pas. C'est un show qui n'était pas bon. Voilà pourquoi on aime Normand Brathwaite. Il est capable d'autocritique et d'autodérision. Si seulement ses camarades de l'UDA pouvaient en faire autant. Cette conversation secrète a été suivie par 1 151 000 téléspectateurs. La voix est demeurée au sommet du palmarès avec 1 881 000 fans, et Tout le monde en parle a retenu l'attention de 888 000 curieux. Se heurter à un mur. Bien malgré elle, Véronique Cloutier et Marie-Pierre Morin ont été apposées l'une à l'autre dans la guerre des codes d'écoute du jeudi soir. Deux têtes d'affiche populaires, une seule case horaire. Le but, expédier l'autre adversaire au tapis. Face au mur de TVA, a toujours eu le dessus sur Première fois de Radio-Canada. Au fil des semaines, l'écart entre les deux émissions vedettes s'est rétréci et la tendance a été renversée le soir du 8 février. Selon les données Numéris qui incluent les enregistrements, l'épisode de Face au mur du 8 février, 922 000, a été devancé par Première fois de Radio-Canada, 958 000. C'est une courte avance, oui, mais c'est une victoire pour Véro et son équipe. Les patrons de TVA ne doivent pas trop apprécier cette situation qui les désavantage. Jeudi dernier, le jeu Face au mur n'a intéressé que 770 000 personnes, alors qu'il n'y avait pas de première fois à la SRC en raison des Jeux olympiques. C'est une cote d'écoute plutôt basse pour un projet aussi gigantesque. $2,500 US, c'est le prix du billet le plus cher pour l'exposition David Bowie Is, qui sera présentée au Brooklyn Museum du 2 mars au 15 juillet. L'acquéreur d'un billet spécial Aladdin Sen pourra visiter l'exposition hors des heures d'ouverture du musée new-yorkais en compagnie d'une personne de son choix, entre autres avantages. Le prix d'un billet ordinaire pour cette exposition, lancée au Victoria and Albert Museum de Londres en 2013, et de $20 US, $25 US, le week-end. L'Iris Hommage sera décerné à André Forcier. C'est Marc-André Lucier qui signe l'article. Après un peu plus de 50 ans de cinéma, André Forcier pourra enfin mettre la main sur un trophée Iris et pas le moindre. Lors du prochain Gala Québec Cinéma, anciennement la soirée des Jutras, qui se tiendra le 3 juin, celui que l'on a surnommé l'enfant terrible du cinéma québécois sera la personnalité du milieu du cinéma à qui l'on rendra hommage. « Je m'y attendais un peu », lance en riant l'intéressé quand on lui demande quelle a été sa première réaction en apprenant la nouvelle. « Je pense que j'étais dû. Cet hommage me fait évidemment très plaisir. Quand j'ai commencé à réaliser Chronique labradorienne le 26 novembre 1966, je n'aurais jamais pu imaginer que ma carrière serait aussi longue. Les motivations qui me poussent à faire des films n'ont jamais changé, cependant. J'aime faire passer des idées par des émotions. C'est ce qui m'a toujours guidée. » Les Grands Ballets ont dévoilé hier soir la programmation de leur 62e saison placée sous le signe de la féminité. Deux créations originales seront présentées. Tout d'abord, l'amant de Lady Chatterley de la chorégraphe britannique Katie Marston, qui sera présentée en octobre. Ce ballet narratif inspiré de l'œuvre de D.H. Lawrence évoquera l'intense passion d'une aristocrate avec un garde-chasse. Puis, la soirée « Femmes » au pluriel, décliné en trois temps et signé par trois figures montantes de la chorégraphie européenne, sera proposé en mai 2019. La saison sera clôturée par une soirée des étoiles intitulée « Et je t'aime encore », au cours de laquelle les petits chanteurs du Mont-Royal interpréteront des chansons de Céline Dion durant les interludes, alors que les danseurs de compagnies de renommée internationale s'exécuteront sur un répertoire classique et néoclassique. Le surf des neiges remplace le hockey, Sébastien Toutan en tête des codes d'écoute aux JO. En raflant la médaille d'or en surf des neiges vendredi soir, le Québécois Sébastien Toutan a également permis à Radio-Canada d'obtenir ses meilleurs codes d'écoute des Jeux olympiques de Pyeongchang. Selon les données préliminaires de Numéris, 1 080 000 personnes étaient à l'antenne entre 21h15 et 21h30 durant la finale masculine du Grand Saut, épreuve au terme de laquelle le planchiste a raflé les grands honneurs. Lors des Jeux de Sochi en 2014, le diffuseur public avait atteint son sommet d'écoute durant la finale de hockey masculin Canada-Suède. La pointe avait atteint 2 047 000 lève-tôt le dimanche matin. Cette année, le hockey a rallié son plus grand auditoire lors du match opposant les Canadiens aux Tchèques. Samedi, 682 000 ont regardé nos joueurs patiner pour décrocher la médaille de bronze entre 9h15 et 9h30.
Et si l'automne chasse un été de pluie, la quatre elle est morte, on a repeint la rue. Elisa dedans, petit Jean, l'écran est fort. J'apprends la guitare, j'en suis à trois accords. J'ai trouvé des girolles au marché ce matin. J'aimerais vivre à Rome, oh, j'aimerais bien. J'ai planté des tulipes et le tarte à éclore. C'est tout, je crois. Ah oui, je t'aime encore. Mais où tu? Aussi loin sans même une adresse. Que deux dessus, où ça m'a fait bizarre, mais j'ai survécu. On m'invite, on me désire, et je danse et je sors. Quand je danse, je t'aime encore.
Céline Dion et la pièce « Et je t'aime encore ».
Sujet libre, alors j'ai choisi de lire la chronique de François Bourque dans Le Soleil, intitulée « La dernière course ». Je n'ai pas vu la scène, mais la description des collègues sur place était émouvante. Pierre Harvé et son fils, enlacés et en larmes après l'éprouvant 50 km qui aura laissé Alex à 6 secondes du podium à son dernier tour de piste olympique. Pour l'athlète et les proches, une grande déception, on peut le comprendre. Mais pour le lointain spectateur que je suis, une grande réussite qui commande l'admiration. Quatrième dans un sport ancestral pratiqué par des millions de personnes dans le monde, dont plus de 2,5 millions au Canada seulement. Un exploit. Eût-il terminé dixième, que je n'en penserais pas moins. Cela me touche davantage que les médailles dans des sports si difficiles et spectaculaires soient-ils, pratiqués par quelques dizaines ou centaines de happy few sur la planète. Cela n'enlève rien aux qualités et à la détermination des athlètes qui réussissent, mais les probabilités mathématiques d'être le meilleur dans un sport marginal sont plus grandes. Ce 50 km de ski de fond dans la nuit de vendredi à samedi fut mon meilleur moment olympique cette année. Le spectacle des couleurs dans le soleil du début de parcours. La chorégraphie du peloton, d'abord compacte, puis qui s'allonge et se fissure. L'élégance des glisses, le rythme brusque des montées, les gros plans de visage déformés par l'usure et l'effort, alors que la brume se lève. Ça fait drôle de le dire ainsi, mais ce que j'ai aimé de cette course, c'est sa lenteur. Plus de 2 heures en piste. On a le temps de voir se déployer les stratégies et tactiques d'équipe, d'apprécier ceux qui tirent en avant et de maudire ceux qui se laissent porter, le temps de supputer sur les chances des échappés de tenir jusqu'à la fin, de chercher les signes de défaillance, de mesurer les écarts qui se creusent ou se referment. Le temps de se réjouir de voir son favori en tête, de s'inquiéter s'il recule, de fermer les livres quand tout semble fini pour reprendre tout à coup espoir, alors que l'improbable est encore possible. Un suspense étiré jusqu'au dernier instant. Plusieurs des nouvelles disciplines olympiques n'offrent pas ce plaisir. Dessinés pour une génération plus pressée que la mienne, ces sports d'hiver sont souvent expédiés en quelques secondes. Un élan, un saut, 3 pirouettes, une vrille et demie, et hop, au suivant. Une vrille et demie, et hop, au suivant. Le format sied parfaitement cette génération qui peine à rester concentrée longtemps sur la même chose et qui carbure au partage des « wow » sur les réseaux sociaux. C'est plus difficile de partager les images d'une course de 2 heures où il n'y a pas de mouvement spectaculaire, sinon celui de la course elle-même. Ça n'empêche pas d'admirer le spectacle et l'agilité que commandent les nouvelles disciplines venues des sports extrêmes. Le travail et l'abnégation pour arriver à ces perfections de 10 secondes. J'en suis souvent ébaudi, mais la vérité est que je n'y comprends rien, incapable d'apprécier par moi-même les manœuvres, de comprendre pourquoi c'est celui-là qui a gagné et pas l'autre. C'est toujours la limite avec les sports jugés. Le mot le dit, il faut s'en remettre au juge. Ou à Alain Goldberg, ce qui nous transporte au pays merveilleux des superlatifs, mais ne suffit pas à bien comprendre ce qui a fait la différence entre les performances. À lire et entendre les experts et athlètes, on en vient à croire que les jeux étaient parfois faits d'avance en faveur des favoris, c'est le cas de le dire, ou que les dés étaient pipés pour des compatriotes, d'où toutes ces controverses. C'est une des raisons pourquoi je préfère l'athlétisme et les sports traditionnels, ski de fond, patinage, longue piste, course, saut, etc. Ces sports où c'est le chronomètre, le galon ou le nombre de buts marqués qui décide. Le premier qui arrive au fil est celui qui gagne. Alex Harvey n'est pas arrivé premier au fil. On peut partager sa déception, mais on peut gagner l'admiration sans avoir été premier au fil ou sur une marche de podium. On ira le lui rappeler lorsqu'il rentrera au pays dans quelques semaines pour participer avec son père, Pierre Harvey, à la nouvelle Lopette au Mont-Sainte-Anne, course inspirée des traditions scandinaves. Une épreuve de longue distance de 48 km qui vise davantage la valorisation de l'effort que le résultat. Une épreuve où il n'y aura ni larmes ni perdants à consoler. Comment éviter d'attraper les virus à la maison? Malgré la température clémente des derniers jours, la saison de la grippe est loin d'être terminée. Lorsque notre enfant ou notre compagnon de vie attrape le rhume, la grippe ou la gastro, est-on condamné à attraper le même virus? Les chances de s'en sortir indemnes sont faibles, mais voici les conseils de deux médecins pour s'armer le mieux possible. Nadiel Couteloup, collaboration spéciale, c'est dans la presse d'aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir d'où vient le virus. Si on a été exposé à la même source de virus que notre enfant ou notre conjoint, on a beaucoup plus de chances d'attraper ce même virus. Par contre, si notre enfant a attrapé un virus à la garderie ou que notre mari a attrapé un virus au bureau, il y a différentes choses que l'on peut faire pour se protéger, mais qui demandent énormément d'attention et de minutie, prévient Caroline Katch, pédiatre, microbiologiste, infectiologue, médecin responsable de la prévention et du contrôle des infections au CHU Sainte-Justine. Dans le cas de la gastro-entérite, les virus se transmettent directement par contact. Le problème, c'est que ces virus sont hyper résistants dans l'environnement, explique la docteure Katch. Ça ne prend parfois qu'un petit virus qui traîne sur le comptoir de la cuisine, qui va aller sur notre carotte crue qu'on va manger, et ce sera suffisant pour causer une maladie. Notons que les virus peuvent rester vivants sur un comptoir pendant plusieurs jours. La solution? Ça prend vraiment une solution d'eau de Javel pour se débarrasser du virus, surtout du norovirus qui cause le plus d'épidémies de gastro, souligne la pédiatre. Avec une lingette neuve, on nettoie donc régulièrement les comptoirs de la cuisine, la poignée du frigo, les robinets de la cuisine et de la salle de bain, ainsi que la chasse d'eau de la toilette qui est une mine de bactéries. Autre point, la personne atteinte de gastro devrait éviter de cuisiner. Si c'est possible, la personne avec une gastro devrait utiliser une salle de bain différente du reste de la famille. Sinon, il faut veiller à désinfecter la salle de bain familiale régulièrement, ce qui n'est pas évident. La personne malade sera-t-elle capable de nettoyer chaque fois toute la salle de bain avec de l'eau de Javel? Parce que quand on vomit, on ne propulse pas les virus uniquement dans la toilette, mais partout dans le mètre carré autour de nous, précise la docteure Quatch. On devrait aussi éloigner le plus possible les brosses à dents de la famille de celles du malade. Idéalement, la personne qui combat la gastro devrait manger dans sa chambre et limiter ses sorties jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de symptômes. Un peu comme on fait à l'hôpital, poursuit la médecin. Se prémunir contre une gastro-entérite qui court dans une maison, ce n'est pas de la tarte. C'est faisable, mais ce n'est pas de la tarte. De façon générale, quand la gastro rentre dans une famille, ça ramasse tout le monde. Lorsqu'un enfant est malade, c'est pire, parce qu'ils ont toujours besoin de quelqu'un d'autre pour se nettoyer ou se moucher. Et comme parents, on ne se nettoie pas toujours les mains après. Notre attitude est différente. On leur donne des bisous, on les prend dans nos bras. On ne les isolera pas dans une chambre et on ne se mettra pas de masque. On se dit que ce n'est pas grave, qu'au pire, on tombera malade. Et on l'est souvent après. À l'hôpital, je n'attrape rien, mais avec mes enfants, j'ai tout attrapé, confie la docteure Katch, mère de 3 enfants de 11, 16 et 19 ans. Se laver les mains avec de l'eau et du savon reste le moyen le plus efficace pour se protéger des virus, du rhume et de la grippe. La personne malade devrait faire de même. Il faut se laver les mains fréquemment, pendant 15 secondes, bien frotter, bien rincer, rappelle la pédiatre Catherine Hénin, qui travaille au service de soins complexes de l'hôpital de Montréal pour enfants. La mère de 4 enfants a un truc pour les petits, leur demander de chanter 2 fois « Bonne fête » en se lavant les mains. Se munir d'un antiseptique à base d'alcool dans la maison est aussi une bonne idée, ajoute-t-elle. En plus de se laver les mains, on évite de se toucher le visage. On ne se rend pas compte du nombre de fois qu'on touche son nez, sa bouche, qu'on se frotte les yeux. Si nos mains sont contaminées, c'est comme ça que les microbes entrent dans nos corps, dans notre corps. Ce n'est pas par la peau, mais par ses orifices, précise la docteure Henin. Voilà, ça complète l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute de Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous invite à rester là. Si vous nous écoutez en direct, je reste au micro pour animer les paractualités. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical.